Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïka réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'émission Fréquence Europe. Je dis nouvelle car passé un certain âge, on ne compte plus. Mais toujours enthousiaste de pouvoir vous retrouver pour une émission sur les institutions européennes et sur l'actualité européenne sur Radio Judaïka. Alors pour débuter cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui vit actuellement dans un pays de l'Union européenne et qui est de passage à Strasbourg. Je vous propose que nous devinions ensemble de quel pays. Et pour cela, je vais vous donner quelques indices. Alors oui, je sais, il est difficile de jouer aux devinettes à la radio, difficile de savoir quand vous aurez trouvé la bonne réponse. Donc je vais vous citer différents mots, différents termes, en partant des mots plutôt difficiles pour aller vers les plus simples. Moach, Unicum, Petefi, Egeshegedre, Bud Spencer, La Cicciolina, Les Chèques Postaux, Vitamine C, Horti, 1956, Danube, Goulash, Sarkozy, Orban, je crois que là, tout le monde a trouvé. Notre invité est Joël Lepavou, qui est journaliste correspondant de presse à Budapest. Bonjour Joël Lepavou.
Bonjour Olivier.
Alors merci d'avoir accepté de participer à cette émission de rentrée. Alors je n'ai pas choisi ces mots par hasard. Ils proviennent tous du dictionnaire insolite de la Hongrie que vous avez publié aux éditions Cosmopole. Alors, afin de revenir avec vous sur cet abécédaire passionnant qui permet de découvrir et de redécouvrir avec des entrées historiques, culinaires, culturelles, sportives, politiques, la Hongrie d'aujourd'hui pour la comprendre, j'aimerais vous poser d'abord une question. Pourquoi un tel ouvrage? Comment vous est venue cette idée de publier un petit abécédaire, un petit dictionnaire? On ouvre, on regarde, tiens, tout d'un coup je tombe sur colbas, qu'est-ce que c'est que le colbas, etc. Comment vous est venue cette idée?
L'idée, c'est qu'en fait, moi, je cherchais à écrire justement un ouvrage, ou en tout cas un livre accumulant mes expériences en Hongrie, puisque je suis arrivé en Hongrie en novembre 2013, et j'ai commencé à regarder justement si il y avait des ouvrages comme ça, justement, insolites, puisque c'est un mot qui est quand même assez régulièrement utilisé. J'avais déjà entendu parler des dictionnaires insolites, je ne connaissais pas encore les éditions Cosmopole. Je suis tombé sur le site justement des éditions Cosmopole, j'ai regardé dans leur collection s'il existait ou pas déjà éventuellement un dictionnaire insolite de la Hongrie, et derrière j'ai vu que ce n'était pas le cas, et c'est à partir de là que je les ai contactés et que les éditions m'ont répondu derrière et que nous avons pu convenir d'un premier rendez-vous à Paris pour l'éventualité d'une publication d'un ouvrage.
Vous pouvez revenir sur votre parcours qui vous a conduit, je crois, de Savoie jusqu'à Budapest. D'où vient ce lien, je dirais même cet amour avec la Hongrie, qui est un pays que vous aimez beaucoup?
C'est un pays que j'ai appris à aimer, puisque moi je viens d'une région montagneuse qui est la Savoie, et comme chacun sait, la Hongrie est un pays où le plus haut sommet n'est qu'à 1014 mètres d'altitude. Alors quand on a grandi à 80 km du Mont Blanc, forcément on est un petit peu décontenancé en arrivant sur place, en arrivant dans la grande plaine hongroise. Mais mon parcours effectivement m'a amené de la Savoie, j'ai effectué ma scolarité jusqu'au baccalauréat, puis à Grenoble où j'ai accompli une licence d'histoire, et derrière à l'école de journalisme de Bordeaux. Et au début de ma scolarité bordelaise, j'ai fait la connaissance de celle qui allait devenir ma future épouse. Nous sommes mariés l'an dernier, mais avant cela, j'ai décidé de la rejoindre justement en Hongrie en novembre 2013 et de chercher en parallèle à proposer des correspondances ou des articles sur la Hongrie, tout en affinant ma connaissance du pays.
Et on voit aujourd'hui que vous êtes vraiment un correspondant reconnu à Budapest. Je vous rappellerai, moi, que vous publiez régulièrement dans Courrier International, sur Slate, qu'on peut même vous retrouver récemment. Je vous ai écouté sur Europe 1 pour une petite revue de Brest sur la Hongrie. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment un référent de français, mais établi en Hongrie.
Tout à fait, j'ai un portefeuille de médias qui s'est élargi au fur et à mesure des années. Slate est l'un de mes plus vieux partenaires, puisque ça a été le premier, on va dire, média, disons, d'envergure en France, ayant publié l'un de mes articles. C'était une analyse à l'époque, justement, qui s'appelait, je crois, La Hongrie d'Orban, le pays où la stratégie à la Buisson, comme Patrick Buisson, fonctionne. Et ça, c'était en novembre 2013, et en parallèle, j'avais publié un portrait d'un pâtissier normand, puisque j'ai commencé par des portraits expatrié français à Budapest, donc un portrait de pâtissier normand installé à Budapest avec une chaîne de pâtisserie française qui était sortie à l'époque dans Paris-Normandie. Donc effectivement, à partir de là, j'ai commencé à travailler, j'ai fait des papiers pour Rue 89, pour Challenge, puis ensuite je suis à partir de la crise des réfugiés de 2015, j'ai commencé à élargir justement mes collaborations, puis à travailler pour Courrier International à partir de la rentrée 2016, et la connaissance du hongrois venant à travailler avec des équipes de télévision venant sur les terrains, notamment à la frontière où se situe la fameuse clôture anti-migrants séparant la Hongrie de la Serbie, et de là à effectivement travailler en radio pour RTL, entre autres, mais aussi pour Europe 1, comme vous venez de le souligner.
Alors, l'image de la Hongrie, pour certains, pour d'autres, ça dépend dans quel camp on se trouve. Elle est positive, elle est négative et très souvent liée à son dirigeant actuel. Aujourd'hui, quand on parle de la Hongrie, c'est Viktor Orban. Est-ce que vous, lorsque vous avez voulu publier cet ouvrage, vous souhaitiez sortir un petit peu de cette image de la Hongrie ou vous revenez également un petit peu sur la politique d'Orban et sur, par exemple, on voit quand même qu'il y a pas mal d'histoires autour des médias en Hongrie?
Bien sûr, en fait, moi l'idée, et c'était un peu le contrat qu'on a passé, en tout cas avec la maison d'édition, c'est que on ne peut pas ne pas parler d'Orban, puisqu'il est devenu vraiment indissociable aujourd'hui de la Hongrie et de l'image qu'on en a en France comme dans les autres pays de l'Union européenne. Mais en même temps, l'objectif de ce genre de dictionnaire insolite, c'est aussi de favoriser ou de donner connaissance d'un pays à travers des anecdotes personnelles, à travers des notices, comme vous le soulignez tout à l'heure, culturelles, sportives, et certes politique, mais en dehors justement de la personnalité d'Orban. Et c'est quelque chose à la fois me tenait à cœur à moi, mais aussi à la maison d'édition, puisque on n'est pas dans un essai politique, on n'est pas dans une énième tentative d'analyse justement du régime de Viktor Orban, on est dans un dictionnaire insolite de la Hongrie, où le fait de consacrer une notice à Viktor Orban paraissait absolument incontournable. Il y a d'autres notices aussi qui sont liées à Viktor Orban, justement comme celle sur les médias ou celle sur le fameux groupe eurosceptique de Visegrad. Mais il s'agissait en aucun cas d'émettre une énième tentative de jugement sur la personne de Viktor Orban en elle-même, puisque j'ai déjà souvent l'occasion de le faire à travers mes contributions
autant,
pour des médias français.
Autant faire un peu autre chose aussi.
Voilà, tout à fait.
Alors on voit que c'est autre chose, parce que moi j'ai été surpris, hein, on découvre des choses. Moi je ne savais pas que la Hongrie était le pays des flippers. Vous avez découvert ça comment ?
En fait, j'ai découvert ça justement par l'intermédiaire de l'histoire du musée du flipper, puisqu'il y a un musée qui est, si ma mémoire est bonne, dans le 13e arrondissement de Budapest. C'est un ancien, je crois, gestionnaire de fonds qui s'appelle Monsieur Palfi, Bolage. Et ce Monsieur Palfi, en fait, justement, a commencé à acheter des flippers pour remplir sa propre collection personnelle et consacrer au flipper l'un des plus grands espaces, disons, à la fois muséo, mais aussi un espace de jeu, puisque les personnes visitant le musée de flipper peuvent découvrir des billards électroniques, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, dont un exemplaire sur le groupe ACDC, avec le groupe ACDC qui est estimé à 10 000 euros, je crois. Et c'est par cet intermédiaire-là, par l'intermédiaire d'un article aussi à l'époque de l'AFP, justement consacré à ce musée, que j'ai découvert que la Hongrie était l'un des pays, si ce n'est le pays, où le ratio par habitant de flipper était le plus important, ou l'un des plus importants d'Europe, avec un flipper, je crois, pour 500 habitants de mémoire.
Alors, il y a aussi une autre petite chose, hein, si on reste un peu sur cet aspect anecdotique, c'est aussi les jeux de société qu'on pratique. Il y a un jeu qui est devenu un jeu télé, je crois, qui s'appelle, alors je vais essayer de bien le dire, Hornfoglalo.
Hornfoglalo, oui, tout à fait, c'est la conquête de la patrie.
Voilà. Alors voilà. Ça, vous le présentez comme un jeu entre le Trivial Pursuit, pour ce que tout le monde connaît, et le Risk. Alors là, on ne comprend pas, et c'est là qu'on découvre qu'il existe un jeu qui prend les deux éléments.
Le principe est très simple, en fait, si vous voulez. L'idée, c'est de répondre à des questions de culture générale, donc là, c'est pour la partie Trivial Pursuit, et de conquérir justement des régions hongroises de la Hongrie actuelle en répondant le plus rapidement possible à ces questions-là, puisque les questions sont soumises à plusieurs personnes à la fois, à toutes celles qui répondent, et celle qui répond le plus rapidement a la possibilité de conquérir une région. Et l'idée, c'est que la personne qui conquiert le plus de régions à la fin de la partie remporte la partie.
Rassurez-moi, c'est la Hongrie d'aujourd'hui ou c'est la grande Hongrie rêvée par certains?
C'est la Hongrie d'aujourd'hui avec ses 19 régions, de Pest à Bács Kiskun, en passant par Gyermosonsopron ou Hajdú-Bihar.
C'est un jeu qui ne s'est pas exporté encore chez nous. Alors, on voit aussi que le sport est un aspect important en Hongrie, notamment le football, alors, notamment la nostalgie autour de Ferenc Puskás. Et on sent toute la nostalgie des années 50 et de la Coupe du Monde perdue contre les Allemands. Mais il y a un autre sport, tous les sports d'eau, qu'on appellerait d'eau, notamment le water polo. Alors ça, c'est un sport en Hongrie, un vrai sport pratiqué et
une institution. Apprécié.
Une institution. Mais aussi la natation, il y a toujours des grands athlètes hongrois. Comment on explique qu'un pays comme la Hongrie, qui n'a pas de mer, arrive à faire sortir autant d'athlètes? Là, très récemment, il y a encore Christophe Milak, je crois, qui a explosé le
record du monde de Michael Phelps.
Michael Phelps à 19 ans. Comment ça se fait que la Hongrie ait toujours des athlètes sportifs en natation?
La Hongrie a toujours une excellente formation en matière de sport d'eau, et le fait de ne pas avoir de mer n'a rien à voir avec le fait que la Hongrie ne soit pas n'est pas obtenu un nombre important de médailles en sport d'eau. La Hongrie a quand même le Danube, la Hongrie a quand même la Tisza, la rivière Tisza, où justement des personnes comme Danuta Kozak, championne, je crois, multi-championne du monde d'aviron, si ma mémoire bonne, de kayak, pratique justement. Et là, il y avait les championnats du monde de canoë-kayak à Szeged, justement, sur la Tisza au sud de la Hongrie, au mois d'août. Pour revenir sur le water polo est une institution dans la mesure où la Hongrie est le pays ayant obtenu le plus de médailles d'or olympiques en water polo, avec 9 titres, si ma mémoire est bonne. Et la Hongrie a même été auteur d'un triplé sur les Jeux Olympiques d'été 2000-2004-2008. Et aujourd'hui, les équipes comme celle de Szolnok ou comme celle de Eger, ou même le Ferencváros, qui est un club omnisport finalement, l'un des plus grands clubs de Budapest.
Comme il en existe dans toute l'Europe.
Comme il en existe dans toute l'Europe, a sa propre équipe de water polo qui figure parmi les meilleures d'Europe. Donc que ce soit le water polo, que ce soit l'aviron, le kayak canoe aussi, comme on l'appelle en Hongrie, ou la natation, comme avec Christophe Milak, avec Katinka Hossu aussi, qu'on appelle la dame de fer, à laquelle je consacre une notice dans l'ouvrage, ou Laszlo Cseh, aussi nageur hongrois multititré, ou également je pense au frère Gyurta, Daniel et son frère, je ne sais plus qui c'est, mais il y a tout un panel, ou même Christina Egerszegi, plus jeune, l'une des plus jeunes championnes olympiques de natation, si ce n'est la plus jeune, en 1988 à Séoul, qui ont apporté justement à la Hongrie une palette de médailles d'or et de titres qui font que la Hongrie est l'un des pays rois en matière de sport d'eau sans avoir de mer.
Il suffit d'aller à Budapest et compter le nombre de piscines, je pense que c'est aussi...
Ou de bains thermaux.
De bains thermaux, je pense que ça, on peut s'en rendre compte. Alors, outre ces anecdotes, vous revenez aussi sur des points sensibles de l'histoire hongroise, pas toujours positives. On peut penser à la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'Holocauste, les croix fléchées, ou encore aujourd'hui même la reminiscence, on va dire, de l'amiral Horthy. Et on revient un petit peu sur l'histoire que ce personnage de la Deuxième Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres de la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie. Quel est le regard que vous portez, vous qui arrivez, sur cette période? Et comment voyez-vous le regard que portent aujourd'hui les Hongrois de l'ancienne génération, de la vieille génération, mais aussi les jeunes sur cette période de l'histoire?
Vous parliez de la réminiscence ou de la réhabilitation, en tout cas de la figure de l'amiral Horthy. C'est une figure dont Viktor Orban dit que finalement c'était un homme d'État, comme on dirait en hongrois. C'est-à-dire que Horthy a cette image justement de stabilisateur après le traité de Trianon, qui a coûté à la Hongrie les 2/3 de son territoire après la fin de la Première Guerre mondiale, et qui s'est retrouvée dans une situation où elle a perdu 65%, je crois, de ses richesses agriculturelles, économiques. Et donc, à l'époque, il faut quand même savoir que la Hongrie s'étendait jusqu'à la moitié de la Roumanie actuelle, donc toute la Transylvanie, le nord de la Serbie, donc la Voïvodine, la Slavonie actuellement croate, un bout du Burgenland, mais aussi toute la Slovaquie actuelle.
Les deux tiers de son territoire.
Et donc, Horthy garde en fait cette image justement de stabilisateur, de presque de sauveteur, puisque c'est la question que je pose dans l'ouvrage. Était-il un sauveteur ou était-il un dictateur? Puisque finalement, la question se pose souvent, et elle est souvent soulevée par les personnalités à la droite de l'échiquier politique en Hongrie, que est-ce que s'il n'y avait pas eu une figure comme Horthy, l'amiral Horthy, est-ce que la Hongrie serait dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui? Est-ce que la Hongrie aurait pu finalement survivre à l'entre-deux-guerres? Alors, la question aussi de l'image de l'amiral Horthy se pose notamment pour son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, pour son alliance de circonstances, pas forcément idéologique, mais de circonstances avec Hitler et avec Mussolini. Mais Et si Ortiz s'est allié à Hitler et Mussolini, c'était surtout pour récupérer tout ou partie des territoires perdus de l'époque. Et grâce aux arbitrages de Vienne, pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie a récupéré en partie ses fameux territoires perdus. Et Horthy a été considéré comme justement un sauveur, un justicier, celui qui a réparé le traumatisme, ou au moins en partie le traumatisme de Trianon.
Il a quand même mis en place ce qu'on appelle les lois raciales.
Mais
aussi.
Il a été l'un des premiers à mettre en place des lois raciales, des lois qu'on dirait anti-juives, littéralement, en Europe. Donc, quand je suis arrivé en Hongrie, j'ai été effectivement confronté à cette image contrastée de l'amiral Horthy ou du régent Horthy comme on l'appelle en Hongrie et comme l'appelle l'historienne Catherine Aurel, spécialiste de la Hongrie dans une biographie qu'elle a consacrée à Horthy. Et moi, la première image que j'ai eue de Horthy, en dehors de mon mémoire que j'ai consacré à l'Axe Rome-Berlin quand j'étais en faculté d'histoire, c'était ce fameux buste protégé par un plexiglas sur la place de la liberté de Budapest, Szabadság tér, où l'on croise non seulement un buste d'Horthy, mais aussi un monument à la gloire des libérateurs soviétiques, une statue presque grandeur nature de Ronald Reagan, et aussi l'ancien siège de la télévision hongroise qui a été littéralement pris d'assaut en 2006 lors des émeutes antigouvernementales contre le gouvernement sociodémocrate de Ferenc Gyurcsány. Donc, d'un mot pour terminer sur Horthy, en fait, quand on essaye d'assimiler, de se familiariser avec l'histoire de la Hongrie, on comprend que Horthy, finalement, une image extrêmement contrastée qu'il convient d'aborder par les deux côtés de la chose.
Comment expliquez-vous les liens qu'entretient Viktor Orban avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Premier ministre actuel, alors que le leader hongrois cherche à réhabiliter, comme on l'a dit, à réinterpréter d'une certaine manière l'histoire en montrant que c'était plus l'aspect des nazis, en le réduisant un petit peu le rôle des croix fléchées. On a ça, et en même temps, il s'en prend à des personnes comme George Soros,
voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
En stigmatisant ce qu'on pourrait appeler ce philanthrope américain d'origine hongroise, mais également d'origine juive, en stigmatisant ses origines juives. Comment on peut expliquer, vous, d'une manière un peu, cette fois-ci, politique internationale, comment Orban peut utiliser ces deux aspects-là, c'est-à-dire, d'un côté, ce lien avec Israël, et en même temps, s'en prendre à tout ce qu'on pourrait appeler d'antisémitisme de base.
Pour revenir sur Soros, comme vous le disiez, Soros Görg, comme on le dit en hongrois, et comme le nom a été répété des centaines de fois justement à travers des campagnes diffusées à la télévision publique, mais aussi sur des grands panneaux en 4x3 sur les routes disant que George Soros était quasiment l'un des hommes les plus dangereux du monde. La campagne anti-Soros de 2017, notamment, avait soulevé quelques critiques, voire même l'indignation de l'ambassadeur d'Israël en Hongrie à l'époque, qui avait été retoqué par Benjamin Netanyahu directement, au moment où justement les liens entre Benjamin Netanyahu et Viktor Orban se renforçaient à l'époque.
On pourrait ajouter que Benjamin Netanyahu a accueilli les groupes qu'on vous avait parlé tout à l'heure de Visegrad, le V4, qui les a accueillis en Israël aussi pour montrer bien les liens qu'il avait avec ces pays d'Europe centrale.
Tout à fait. Et au-delà d'une proximité idéologique, Viktor Orban et Benjamin Netanyahu partageaient le même conseiller, puisque M. Finkelstein, qui était l'un des principaux conseillers de Nixon à l'époque, mais aussi de Ronald Reagan, a été l'architecte, justement, des campagnes anti-Soros en Hongrie. Donc c'est là où est l'ironie de la chose, c'est-à-dire que les messages du Likoud en Israël et les messages du Fidesz étaient pensés, imaginés par la même personne, aujourd'hui décédée, je crois que c'était l'an dernier, me semble-t-il, mais là où Orban et Netanyahou sont proches, c'est qu'ils sont dans cette idée de fierté nationale, de rétablissement, on va dire, d'une sorte de justice, justement, sur le diagnostic d'un, disons, petit pays autrefois grand, ou en tout cas d'une façon de concevoir la politique, mais aussi le rôle d'un État-nation, puisqu'ils sont tous les deux partisans d'un État-nation extrêmement puissant. Et là où le lien entre Benjamin Netanyahu et Viktor Orban est encore plus intéressant, il y a une forte communauté hassidique en Hongrie, une, disons, qu'on va appeler comme ça, juive orthodoxe, extrêmement puissante en Hongrie, et Orban a des liens très forts et bénéficie du soutien justement de la communauté hassidique en Hongrie, et c'est aussi par ce biais-là, et par le fait d'avoir justement accueilli aussi Benjamin Netanyahu à Budapest, que Viktor Orban et le leader du Likoud sont extrêmement liés politiquement. Mais de manière générale, le lien entre Orban et Netanyahou, c'est un lien d'homme fort, tout comme Orban est lié à Erdogan, tout comme Orban est lié à Vucic en Serbie, tout comme Orban
est un... C'est un peu l'illibéralisme qu'on pourrait dire qu'il est lié, un peu les deux.
Un petit
qu'on appelle on pourrait dire ça. Un peu état fort.
Oui, 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 mais une expression dont Orban s'est un petit peu auto-désolidarisé, puisque c'est ce qu'il avait prononcé au moment de l'université d'été de Boyle-Touchna.
C'est un mot qu'on retrouve dans, dans votre dictionnaire.
Qui me paraît c'est incontournable, justement, même si aujourd'hui ça, c'est un peu moins vrai, le diagnostic c'est un peu moins vrai concernant la Hongrie, mais quand on pense à des leaders comme justement Jair Bolsonaro qui est dans l'actualité aujourd'hui au Brésil avec les feux en Amazonie, quand on pense à un Donald Trump, quand on pense à justement un Erdogan en Turquie, voilà, ce sont Orban et
Orban est parenté, c'est ça que
il y a un lien de parenté idéologique qui pourrait paraître un raccourci, mais qui au fond en fait, est relativement crédible quand on réfléchit à la teneur des régimes en question, parce que ce sont des régimes qu'on pourrait qualifier presque d'hybrides dans le cas de la Hongrie. C'est un diagnostic d'un politologue qui s'appelle Gábor Filipov, qui pour moi est l'un des plus pertinents concernant le régime. C'est un régime à la fois entre, disons, la démocratie parlementaire classique, que la Hongrie est un régime parlementaire avec un président inaugurateur de Chrysanthème finalement, et en même temps un régime où le Premier ministre a un pouvoir extrêmement fort, dépassant justement celui du président de la République. Donc un mélange, un mix finalement entre démocratie parlementaire classique et tendance autoritaire, autoritariste, illibérale comme on pourrait les appeler. Et c'est là où justement Benjamin Netanyahou et Orban se rejoignent de mon point de vue, tout comme ils se rejoignent avec Erdogan, alors même que l'Empire ottoman à l'époque avait occupé pendant 150 ans la Hongrie, ce qui n'empêche pas aujourd'hui Orban d'être extrêmement ami avec Erdogan qu'il va accueillir justement au mois de novembre à Budapest, et en même temps d'avoir une énorme ouverture à l'Est, puisqu'on n'a pas encore parlé de Vladimir Poutine et des liens avec la Russie, ancien occupant aussi de la Hongrie, ce qui n'empêche pas d'avoir des liens énergétiques, d'avoir des liens politiques, d'avoir des liens profonds finalement entre justement les anciens occupants, donc la Russie soviétique anciennement, ou l'Empire ottoman, aujourd'hui la Turquie un peu réottomanisée par Orban, par Erdogan, pardon, qui font que voilà, il y a vraiment ce côté homme fort, État-nation, qui explique ce lien avec Netanyahou.
Alors on va essayer de terminer cette émission sur des... Déjà, on va la terminer sur notes de musique, mais avant de la terminer sur notes de musique, on va essayer de terminer cette émission aussi sur des notes plus légères, parce que c'est vrai que Orban est quelqu'un sur, je pense, on pourrait en discuter des heures et des
facilement.
Heures et des heures. J'aimerais un petit peu, par rapport à nos auditeurs, leur donner envie d'aller en Hongrie, leur envie de manger de la nourriture hongroise. Si vous aviez quelque chose, alors, un conseil culinaire à leur donner, à part le goulash, vous les irez vers quoi?
Alors, à part le goulash, il y a un autre plat qui est très connu, mais un peu moins justement des touristes, c'est ce qu'on appelle le perkelt, donc c'est-à-dire tout ce qui est ragoût, notamment le morha perkelt, donc le ragoût de bœuf, avec, moi ma version préférée, c'est avec quelques morceaux de paprika piment, donc les fameux paprika verts, quelques petites lamelles glissées à l'intérieur, et ça donne un résultat absolument fabuleux avec des pommes de terre.
On va le rapprocher un peu peut-être du bœuf bourguignon, mais à la sauce paprika.
Exactement.
Et ensuite, il y a une deuxième chose, voilà, c'est plus les vacances, mais on part souvent au week-end à Budapest, même des fois trop pour certains, il y a des quartiers où ça bouge beaucoup et ça fait quand même beaucoup de problématiques autres, hein, celle du bruit, des nuisances. Mais si on devait partir à Budapest, quel serait alors, puisqu'on parle de dictionnaire insolite, un coin un peu insolite, ou en tout cas peut-être où les touristes ne vont pas automatiquement, quel conseil donneriez-vous?
Je dirais, là comme ça au débeauté, je dirais une partie du 8e arrondissement de Budapest, parce que c'est un secteur qui est en pleine gentrification, un secteur où finalement de nombreux bars ont émergé, un peu tout, un peu comme dans le fameux 7e arrondissement, le quartier de la fête que vous évoquiez, où il y a le Simplakert et d'autres lieux dits alternatifs.
Pas très loin de la synagogue, grande synagogue.
Pas très loin de la grande synagogue de Doha Nyutsa, où se précipite littéralement toute la jeunesse en quête d'ébriété et d'alcoolisme ou d'alcoolisation low cost, littéralement. Enfin bon, voilà, je vois dans le 7e arrondissement, quand je pars le matin, je vois des Anglais vomir dans la rue, disons que voilà, c'est un arrondissement qui est devenu extrêmement problématique, ou en tout cas une partie de cet arrondissement est devenue problématique. La municipalité veut tenter de faire quelque chose, mais évidemment, comment bloquer une telle manne de profit? Mais dans le 8e arrondissement, pour revenir là-dessus, vous avez par exemple des lieux, voilà, des bars comme le Hintalo ou le Goya qui s'est déplacé dans une autre partie du 8e arrondissement, mais aussi justement c'est des vieilles maisons pas encore retapées, tout un endroit où vit une bonne partie de la communauté tzigane ou rome justement de Budapest, où l'on peut un peu plus volontiers s'aventurer à un quartier un peu mixte, mélangé, qui rappellerait un peu justement Barbès ou la Porte de la Chapelle à Paris, mais en un petit peu moins craignos quand même.
Alors merci pour tous ces conseils. Comme je l'ai dit, j'aimerais terminer cette émission en musique. Alors vous êtes un Hongrois d'adoption. Si vous nous conseilleriez d'écouter quelque chose, vous auriez envie de nous faire écouter une musique, un groupe hongrois, vous nous proposeriez quoi?
Alors moi, je vous proposerais le premier gros tube d'un groupe qui s'appelle Hollowed Pains. Alors si on traduisait littéralement, ce serait l'argent mort ou quelque chose comme ça, avec leur titre Volami Vonola Vagueben, qui veut dire il y a quelque chose dans l'air. C'est un peu un hymne à la jeunesse et à la façon de faire la fête à Budapest.
Merci beaucoup, on se quitte donc en musique. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Dictionnaire insolite de la Hongrie, publié aux éditions Cosmopol. Vous êtes également correspondant donc en Hongrie. On peut suivre l'actualité hongroise en allant sur votre compte Twitter, Joël Le Pavou. Donc un grand merci encore pour votre venue à Strasbourg, votre passage dans cette émission. Je vous dis donc à bientôt sur Radio Judaïka pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.
Merci pour votre invitation.
Ja, majd pihenek, ha öreg leszek. Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba. És kártyázunk köntösbe, titokba. Hanem a pólóim lesznek majd kikotva. Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat. Ha már nem izgathat más, csak a tévé. Alvás, evés, ivás. De most látnod kell, hogy a világ csodása. Hagyd a netet ma mögötted. Dolgok történnek körülötted. Mennyi szép lány, mennyi fiú, akit nem veszel észre, mert nem veszed észre, hogy a külső, belső nélkül nem sok. Smárolni lehet, de az nem sok. Szeresd azt, akit valamivel megfog. A szexben az ölelés a legjobb.
Valami van a levegőben. Valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben. Valami, ami reggel szétszer. Valami van a levegőben. Valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben. Valami, ami reggel szétszed. Éjjelre összerak majd. Reggelre szétszed. Éjjelre összerak majd. Reggelre szétszed. Szétszed.
Van, akitől menekülök, valakihez futok én.
Van, akihez ledőlnék már egy kanapén.
Van, akitől félek, pedig szerettem az elején.
Kötődnék már valakihez úgy, mint a kollagén.
A lelkem korabén, a testem még fiatal. A vállamra dőj rá, és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel? Van gáz, a fater nem bankár. A csajod nem sorstárs, ácsi. A gondokat most falhoz kell vágni. És élni egy percig, mint ha nem lenne holnap. Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat. A nyelvemre írnád a számot fel. Egy csókkal a bánatom szántod fel. A szívünket ma este cseréljük el. Vagy hitelre megkapod alacsony kamatra. Az enyém, ha kell. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem.
Valami van a levegőben. Valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben. Valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben. Valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben. Valami, ami reggel szétszed.
Éjjel összerak majd. Reggel.
Reggelre szétszed, reggelre.